France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
8 millions de personnes sont obèses en France et le chiffre ne cesse d'augmenter depuis plusieurs décennies. La France d'ailleurs n'est pas un cas isolé. L'obésité est devenue la première forme de malnutrition au monde. C'est ce que dit un dernier rapport de l'UNICEF et cela concerne un enfant ou un adolescent sur 10. J'ajoute une autre étude, celle de la revue scientifique The Lancet. Elle prévoit qu'en 2050, 6 adultes sur 10, un enfant sur 3, seront en surpoids ou obèses si rien n'est fait. Si rien n'est fait, mais faire quoi ? Eh bien en France notamment, ce sera le thème du Téléphone Sonne. Ce soir, on ira explorer les causes de l'obésité, les produits ultra transformés, l'hérédité aussi probablement, la sédentarité qui nous guette et avec quelles conséquences sur notre santé. On évoquera les possibles traitements en France en se méfiant des pilules annoncées comme des miracles. Et puis nous verrons où en sont les programmes de santé publique sur le sujet. Appelez-nous, faites-nous part de vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli France Inter, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec ce soir deux invités pour répondre aux auditeurs. Emmanuel Lecornet-Socol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin endocrinologue à Paris, diabétologue attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Alors, plus tout à fait, plus depuis, juste à Paris.
Ah bon, vous êtes tout. À Paris. Vous êtes encore présidente de la FENAREDIAM, la Fédération nationale des endocrinologues. Je vais avoir du mal ce soir. Endocrinologues libéraux. Et vous êtes aussi co-autrice du livre Et si c'était hormonal, livre édité chez Hachette Bien-être. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui souhaitent se renseigner sur les liens entre vous, docteur Lecornet-Socol, et l'industrie pharmaceutique, eh bien, rendez-vous en toute transparence sur transparence.santé.gouv.fr.
Merci.
Invité également Séverine Berthéaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diététicienne nutritionniste, enseignante en nutrition microbiologique et biochimie alimentaire à l'UT Nancy Brabois. Vous êtes aussi membre fondatrice de l'EPAGE Prévention Santé. Est-ce qu'on peut définir, Emmanuel Lecornet-Socol, à partir de quand nous sommes obèses ?
Alors, il y a une définition très ancienne de l'obésité qui est basée sur l'indice de masse corporelle, l'IMC. Où on prend le poids, la taille. Alors, on prend le poids et on le divise par sa taille au carré. Et donc, on considère jusqu'à il y a peu de temps que si on avait ce fameux IMC supérieur à 30, on était en situation d'obésité. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et justement, dans le Lancet, là, en début d'année, on a une étude très importante qui nous a montré qu'en fait, on pouvait avoir un poids très élevé, mais en fait, être un grand sportif, un rugbyman, je ne pense pas que Teddy Riner, on puisse le qualifier d'obésité. Et on peut aussi avoir une obésité, mais être en parfaite santé. Et par contre, ce qui va vraiment impacter, ce qui est important, c'est les risques que ça peut avoir, ou quand on passe dans la maladie obésité avec le retentissement et les complications, malheureusement.
Parce qu'on devient malade à partir de quel indice, pardon?
Alors en fait, en fait, il y a une prédisposition, une susceptibilité à avoir ces maladies, que ce soit des maladies cardiaques, du diabète, de l'hypertension, des maladies du foie. Donc c'est tout ça en fait qu'on va explorer. Donc c'est vrai que la prise en charge de l'obésité, c'est pas juste un problème de poids, c'est aussi un problème de santé, de bien-être, de qualité de vie.
Séverine Berthéaz, je rappelle que vous êtes diététicienne et nutritionniste. On va parler ce soir beaucoup d'aliments ultra transformés. Là encore, on va essayer de définir le concept. À partir de quand est-ce qu'on peut identifier un aliment ultra transformé dont on va dire qu'il n'est pas bon pour la santé, hein ?
Alors, effectivement, un aliment ultra transformé, c'est un aliment déjà qui subit différents traitements. Ça peut être déjà un épluchage. De là à dire que c'est un aliment ultra transformé, ce serait un peu fort. Mais c'est quand on va avoir vraiment une déstructuration de la matrice alimentaire avec des ajouts d'additifs et qu'on retrouve sur l'étiquetage de l'aliment qu'on achète une liste très, très, très longue d'ingrédients qui va nous interpeller, effectivement.
01 45 24 7000, le téléphone sonne sur l'obésité ce soir. On attend vos témoignages, vos questions. Jean nous appelle de Bayonne. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, j'ai une question bien précise sur quelque chose qui me chagrine énormément. C'est que, donc moi je suis énormément sur la route, je m'aperçois que depuis quelques années, quand je m'arrête pour boire mon café, je dois explicité que je ne veux pas de sucrerie avec mon café. Donc je trouve qu'il y a une forme de d'équivoque, voire dire d'ambiguïté sur une lutte contre l'obésité dans cette disposition. Je me pose des questions parce que c'est très facile aujourd'hui de supprimer cette disposition et d'interdire de proposer ces sucreries. Je vois pas pourquoi on prendrait les sucreries. Quelqu'un qui en veut, ben, il a la liberté de la choisir, mais je vois pas pourquoi on lui propose systématiquement.
Merci beaucoup de ce témoignage. Je vais le renvoyer vers notre diététicienne nutritionniste, Séverine Berthéas. Ce que ne dit pas notre auditeur, mais qu'il sous-entend, il y a une industrie du sucre qui veut nous faire manger du sucre toute l'année, tous les jours.
Oui, mais c'est addictif, hein, le sucre, hein, ça fait consommer. Hein, donc, autant on peut réguler, on a une loi, on a la loi Egalim, on a le PNNS4, hein, notre programme national nutrition santé, qui va impacter les collectivités, les restaurations collectives, autant sur l'autoroute ou dans des commerces, on va dire, traditionnels. L'offre alimentaire, elle est vaste et on ne peut pas avoir trop d'impact, même si on a des politiques de santé publique qui vont dans le sens de la réduction des apports sucrés, des apports gras, etc. Donc oui, c'est un petit peu schizophrénique, effectivement. Mmh. Et c'est quand même un environnement qu'on qualifie d'obésogène, puisque tout porte à la consommation.
Bien sûr. Emmanuel Lecornet-Socol, je rappelle que vous êtes médecin endocrinologue à Paris. Vous avez vécu 2 ans aux États-Unis. Est-ce que vous voyez arriver les mauvaises habitudes alimentaires d'outre-Atlantique? Elles arrivent en France?
Oui, alors ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de choses, effectivement, beaucoup d'habitudes qui viennent. Notamment, on s'en rend bien compte, le fait des aliments ultra transformés, des plats préparés, des aliments qui sont aussi faciles à mâcher. Vous savez, hein, quand vous allez manger dans un fast-food, il n'y a pas besoin. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut avaler très vite. Donc, il y a cette perte de la mastication, des goûts qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus sucrés, et puis des portions. Et ça, on le voit. Hein, il y a des études très intéressantes. Et on a vu ça en Amérique du Nord et on voit ça aussi en Europe, l'augmentation des portions quand vous allez dans les restaurants. Aujourd'hui, on a des portions qui sont beaucoup plus importantes qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et si vous allez en Asie, vous vous rendrez compte que les portions sont plus petites. Donc on a, il y a toute une science en fait de la façon dont les aliments sont présentés, dont les aliments sont préparés et dans nos habitudes. Donc c'est vrai que notre tradition d'avoir ces repas traditionnels, mais là on parle quand même de tout ce qui peut mener à l'obésité. Donc là, on parle de prévention. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, même en mettant beaucoup de prévention, la maladie obésité va arriver parce qu'il y a aussi une forte susceptibilité génétique qu'il ne faut pas complètement
oublier. C'est une maladie héréditaire.
En grande partie. Il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que les politiques de santé publique, elles peuvent permettre à des gens qui ont cette susceptibilité de diminuer leur risque ou de ralentir ou de faire que ça arrive le plus tard possible. Mais attention à ne pas dire non plus que parce qu'on est en obésité, on mange mal et c'est de notre faute, parce que ça, on le sait très bien aujourd'hui, c'est faux.
Séverine Berthéas, on parlait avec Emmanuel Lecornet-Socol des portions. Ça fait partie des bonnes habitudes, ne pas se resservir, prendre des portions, plutôt se faire plaisir d'abord, et c'est ce que vous soulignez aussi.
Oui. Mais je suis totalement d'accord. Les portions, par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'on a effectivement des comportements alimentaires qui vont être pas compulsifs, mais on va avoir une alimentation qui va fondre toute seule dans la bouche. Hein, on l'a avec les produits ultra transformés, les biscuits, etc. Et on ne va plus avoir, comme le soulignait le docteur Lecornet-Socol, cette mastication, ce temps aussi de repas qui est important, les saveurs, etc. On engloutit très rapidement. Et effectivement, revoir les portions, revoir les plateaux repas avec des composants, ce qu'on appelle des composantes, une entrée avec des crudités, par exemple, ça peut être autre chose, un plat principal avec différentes composantes, une portion de protéines, pourquoi pas, il faudra revoir les quantités, mais un accompagnement avec des légumes, avec des féculents, avec des textures variées, avec des cuissons variées, avec des couleurs variées, et puis associer ça à un produit laitier et un dessert, qui peut être de temps en temps un dessert sucré, c'est pas le problème, mais avoir cette variété-là, avoir ces composantes, avoir ces textures, non seulement ça rapporte du plaisir, mais ça rapporte du temps. On passe plus de temps à mastiquer, on mange plus lentement et on arrive à la sensation de satiété aussi correctement. Ce sont des histoires de densité énergétique aussi. Là, quand on parle de tout ce qui est biscuits, produits ultra transformés, on est sur des produits qui apportent énormément d'énergie, qui sont engloutis sans qu'on ait cette sensation d'engloutir quelque chose. On les avale, ça fond tout seul, on en mange beaucoup, contrairement par exemple, et c'est le cas pour les goûters des enfants, contrairement à un morceau de pain qu'on va prendre le temps de mastiquer, même s'il y a un carré ou deux carrés ou trois carrés de chocolat à l'intérieur.
Docteur Emmanuel Le Cornet-Sequel, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors je suis complètement d'accord, et puis je trouve que vraiment on a parlé là de ce problème de satiété. Donc le satiété, c'est le fait de savoir que ça y est, on a fini de manger, on n'a plus besoin de manger, notre corps n'a plus besoin. Et ça, on a tendance à perdre en fait ces sensations de satiété, de rassasiement. Quand est-ce que j'ai faim? C'est pas la même chose d'avoir envie de manger quelque chose parce qu'on est passé devant une boulangerie et d'avoir vraiment faim parce qu'on sent qu'on manque d'énergie. Et ça, on perd ces signes parce qu'on a tout plein de stimulations autour de nous qui nous le rappellent. Et donc ce travail sur le comportement et sur le contrôle alimentaire, il est vraiment important.
On va retourner au standard. Huguette nous appelle de l'Eure et Loire. Bonsoir Huguette.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je me demandais si les animaux qui sont nourris aux hormones et aux antibiotiques et qui passent dans nos assiettes aussi, c'est pas une des raisons aussi qui fait grossir les gens.
Eh bien écoutez, la question est précise, je vais la soumettre à la scientifique Emmanuel Le Cornet-Sequel, médecin endocrinologue à Paris. Est-ce que le bœuf aux hormones nous fait grossir?
En France, on a quand même une réglementation qui limite beaucoup. On n'a pas tout à fait les mêmes réglementations.
Avec beaucoup d'interrogations sur le Mercosur qui arrive, avec des viandes qui vont arriver dont on ne saura pas tellement la traçabilité.
Exactement. Donc, je ne voudrais pas non plus jeter la pierre à nos agriculteurs qui sont soumis, nos éleveurs, qui sont soumis aussi à des règles parfois complexes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la qualité de la nourriture va effectivement jouer sur notre santé. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont fondamentaux. Alors, pour aller même un peu plus loin, on sait que des pesticides qu'on peut retrouver, des nanoparticules, des perturbateurs endocriniens, on en a beaucoup parlé, on en parle sur la santé hormonale, la santé de la reproduction, mais en fait, on sait que ces éléments-là peuvent aussi jouer sur l'apparition d'une obésité, d'un diabète aussi. Donc, il y a des pistes là-dessus.
Michel nous appelle des Ardennes. Bonsoir Michel.
Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais intervenir par rapport à la nourriture industrielle qui comprend des activateurs de goût, c'est-à-dire le sel, le gras et le sucre rapide qui est une véritable catastrophe quand même pour au niveau cardiovasculaire et au niveau de diabète de type 2. Par ailleurs, je voulais rajouter également qu'il y a une hypocrisie au niveau de l'État de pas mettre en place une législation. Il y a le Nutri-Score, mais c'est laissé à la libre appréciation des gens et je vois des gens, des enfants qui sont très obèses dans les grandes surfaces qui prennent un Nutri-Score très élevé. Et les parents ne mettent pas de veto. Il faudrait quand même qu'il y ait une législation. Et par ailleurs, par rapport à la génétique, je voulais ajouter que la génétique n'est pas autant séparée que ça de l'environnement. L'alimentation joue un rôle aussi sur la génétique. C'est les généticiens qui le disent aussi. C'est pas aussi nettement séparé. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être venu le dire ce soir. Merci beaucoup, Michel. Je vais soumettre votre commentaire à Séverine Berthéas en ce qui concerne cette hypocrisie que dénonce Michel sur notamment tous les scores, le Nutri-Score, qui ne sont pas véritablement imposés en France. Vous confirmez le mot hypocrisie des gouvernements successifs?
Je ne me permettrai pas de parler d'hypocrisie, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec une volonté, avec des vrais problèmes de santé publique, avec une volonté de réguler la consommation. On le voit dans le programme national Nutrition Santé, on a des plans obésité, des plans d'alimentation, donc ce fameux programme national Nutrition Santé, on a des programmes scolaires qui vont permettre aux enfants de s'emparer de certaines notions nutritionnelles. Et puis au niveau commercial, on a voilà le Nutri-Score qui est apparu, qui voilà vaut ce qu'il vaut, qui a été amélioré dernièrement, qui a permis aux industriels malgré tout d'améliorer un petit peu leur formulation. On pourrait aller un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'embête, c'est d'avoir un Nutri-Score A quand on a un produit ultra transformé. C'est encore le cas. Donc on n'a pas.
Mais comment c'est possible ça? Comment est-ce possible d'avoir un Nutri-Score A quand le produit est ultra transformé,
si vous voulez,
des activateurs de goût que dénonçait notre auditeur tout à l'heure?
Oui. Si vous voulez, le Nutri-Score, il va se baser sur des éléments, des quantités de graisse, des quantités de sel, des quantités de fibres, des quantités de vitamines, etc. C'est un algorithme qui est créé. Et à partir de là, on va pouvoir, pour un même produit, mais de marques différentes, on va pouvoir comparer les produits les uns avec les autres, sur des madeleines, par exemple, ce genre de choses. Le petit truc, c'est qu'on a des produits dits diététiques qu'on peut retrouver, qui vont présenter des apports en fibres assez intéressants, qui vont limiter peut-être l'apport en sel, l'apport en sucre, etc.
Et donc, ils seront bien notés dans le Nutri-Score.
Et qui sont très bien notés, et qui ont des matrices qui sont complètement altérées.
Docteur Le Cornet-Socol.
Oui, alors le Nutri-Score, et j'en profite ici pour saluer le professeur Serge Herberg et toute son équipe qui a été vraiment...
qui a défendu.
Exactement, et qui continue aujourd'hui. Enfin, les gens, ses élèves aujourd'hui continuent. Et avec tous ses défauts, c'est quand même une grande avancée. Après, il y a toujours les limites que est-ce que les industriels souhaitent s'emparer de cet instrument ou pas. Mais surtout, le Nutri-Score évolue. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de des limites et ils le font évoluer, donc notamment avec justement les problèmes, le fait que ce soit des produits locaux ou pas, le fait qu'il y ait d'autres produits qui soient rajoutés, des excipients, des stabilisateurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est en train de se modifier, donc vous allez voir, petit à petit, même les Nutri-Score de certains produits peuvent changer. Ça c'était...
Débat ce soir contre l'obésité, comment s'en défaire, quel traitement, on va en parler dans un instant avec nos invités, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Daniel nous appelle de Lyon. Bonsoir Daniel.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, je voudrais attirer l'attention sur un phénomène que tout le monde connaît et que tout le monde déplore, c'est le nombre d'heures passées sur les écrans de la jeunesse, des plus petits aux plus grands, même en faculté. Et moi, je vois autour de moi, à Lyon, des jeunes qui sortent de cours, des fois, à 10h le matin, le mercredi, à 14h30 ou 15h, que ce soit des lycéens ou des collégiens. Question, combien y a-t-il d'heures d'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires? Pourquoi ne garde-t-on pas les jeunes entre 8h et 18h dans les établissements scolaires pour leur faire faire justement de l'activité physique? Ils seraient moins tentés d'être sur des écrans.
Merci de ce témoignage qu'on va soumettre à Séverine Berthéas, diététicienne nutritionniste. Ça fait partie de votre triptyque hein, pour réguler son poids, l'alimentation saine et équilibrée, et aussi une activité physique régulière.
Effectivement, augmenter son niveau d'activité physique et puis ne pas se situer en posture de sédentarité, parce qu'il y a quand même deux choses. Hein. Il faut bouger. On nous conseille de bouger, l'OMS conseille de bouger 60 minutes par jour. On nous parle, nous, de faire 30 minutes d'activité physique. Pourquoi pas, mais il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit répété tout au long de la journée. Et c'est vrai que nos enfants, et même nous, hein, devant les écrans d'ordinateur, dans des professions où on est derrière un bureau ou autre, on va avoir du mal à faire des ruptures de sédentarité. Mmh. Voilà. Donc oui, c'est compliqué.
Mmh. Et puis, il y a aussi, on va l'aborder maintenant, le dossier des traitements anti-obésité. Ce sont généralement des molécules qui sont détournés de leur vocation originelle, des antidiabétiques par exemple, des antidépresseurs qui peuvent devenir des coupe-faim, docteur Le Cornet-Socol?
Alors, il faut distinguer deux choses. Hein. On a un historique d'utilisation de médicaments. Donc, il y a deux choses. Il y a des médicaments qui ont été au départ faits pour traiter l'obésité, effectivement, où il y a eu beaucoup de complications, donc qui ont été retirés du marché. Il y a toujours eu des détournements de médicaments par des gens peu scrupuleux. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle famille de médicaments qui, au départ, a été utilisée et est toujours utilisée pour les personnes qui ont un diabète de type 2 et qui a été étudiée. Donc, on est pas du tout dans le détournement, dans l'obésité, avec des études qui ont été faites sur des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Et donc ces traitements-là aujourd'hui, ils sont disponibles en France, enfin en Europe et dans la plupart des pays dans le monde. Et là, on n'est pas dans du détournement.
Et on n'est pas dans des tournements, mais est-ce que ces médicaments pour maigrir ont aussi des effets secondaires non négligeables ?
Alors, comme tous les médicaments, ils ont aussi des effets secondaires. C'est-à-dire qu'ils doivent être utilisés dans un certain cadre. On est dans une maladie, l'obésité, et effectivement, ce n'est pas un médicament qu'on va prendre avant l'été pour perdre 3 kilos. Donc, l'utilisation de ces médicaments, c'est un outil pour les personnes qui ont une obésité. De la même manière que si une personne a une obésité, elle a des apnées du sommeil, on va l'appareiller. Si elle a un diabète, on va traiter son diabète. Si elle a une obésité très importante, on peut aller jusqu'à une opération. Je pense que tout le monde autour de soi a déjà entendu quelqu'un qui a eu une opération, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Et aujourd'hui, on a un autre outil qui sont cette famille de médicaments qui sont des injections aujourd'hui qu'on peut faire soit quotidiennement, soit de manière hebdomadaire et qui dans la communauté scientifique médicale en tout cas font l'objet de beaucoup d'études et d'attention par les autorités de santé. Et oui, il y a des effets secondaires. Oui.
Et est-ce que ces médicaments pour réguler son poids sont bien remboursés par la Sécurité sociale ?
Alors actuellement, l'assurance maladie ne rembourse aucun de ces médicaments malheureusement avec des coûts très important hein, puisqu'on est dans plusieurs centaines d'euros par mois. Donc c'est effectivement une très grande problématique. Il y a beaucoup de négociations. Les sociétés savantes sont très actives auprès des autorités de santé pour pouvoir avoir un remboursement au moins chez les personnes qui ont une obésité importante, puisque rappelons que l'obésité, ça touche aussi beaucoup les populations les plus précaires. Et donc c'est ceux-là pour qui pouvoir utiliser ces médicaments est le plus difficile.
Je disais que le Wegovy n'est pas remboursé, contrairement à la Suisse et le Royaume-Uni. Vous souhaitez qu'il le soit, ce médicament particulièrement ?
Alors, probablement
on va citer plusieurs médicaments pour éviter les problèmes de
alors,
publicité.
Il y a trois molécules actuellement qui existent et qui sont utilisées, que l'on peut prescrire, donc dans cette indication, qui ne sont pas remboursées, aucune des trois. Et oui, enfin, en tout cas, nous, dans notre association et dans l'ensemble des sociétés savantes, on essaye que ce soit remboursé pour les personnes qui ont des obésités les plus importantes et les plus compliquées, au moins.
Et avec des molécules comme la sémaglutide qui procure un sentiment de satiété assez rapidement, c'est ça l'histoire ?
Voilà, alors en fait, ces médicaments, ils agissent de deux manières. La première, c'est qu'ils ralentissent la vidange de l'estomac, donc on a ce fameux effet rassasiement. Mais surtout, ils vont agir sur les centres de l'appétit qui sont dans le cerveau. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le cerveau, on a des centres de l'appétit qui envoient des hormones. Et en fait, quand on a une obésité, ben on a un dysfonctionnement de la communication entre la graisse et ces centres de l'appétit dans le cerveau. Et donc, le médicament, il va remettre de l'ordre, donc il va réguler l'appétit. Donc, ce n'est pas un coupe-faim, ce n'est pas non plus du tout un brûle-graisse. Donc, si vous continuez à manger comme avant, ça ne marche pas, mais ça va permettre de réduire l'appétit et donc d'aider les personnes à perdre du poids.
Merci de ces explications. Marguerite nous appelle. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir, voilà, je suis pédiatre de PMI. Et dans le cadre de mes missions avec l'infirmière à l'école maternelle, nous devons dépister les problèmes de poids, notamment le surpoids et l'obésité. Et lorsqu'après on invite les parents à nous rencontrer et à ce qu'on puisse discuter de comment ça se passe à la maison et tout ça, eh bien nous sommes vraiment très désappointés parce que les parents ne comprennent pas ce qu'a leur enfant. C'est très difficile d'expliquer, de montrer les courbes de croissance en poids, d'expliquer que là, on sort de courbe, de la courbe moyenne. On arrive à une fin de non-recevoir. Voilà. Et nous avons dépisté pas mal d'enfants, je ne sais pas combien, l'année dernière. Eh bien, je suis arrivée à en adresser qu'un seul à l'OBEP. Et là, l'OBEP, c'est... Bon, je travaille dans le 06 et il a été pris en charge avec une diététicienne, une psychologue et un médecin généraliste qui rencontrait l'enfant tous les mois.
Merci bien de ce témoignage, voilà. Marguerite. Je vais me retourner vers Servine Berthéas, qui est diététicienne et nutritionniste. Évidemment, des parents vous ont rencontré régulièrement. Le cas de cette auditrice, Marguerite, qui nous dit que les parents ne jouent pas le jeu, vous le rencontrez souvent en cabinet chez vous ?
Les consoeurs, les confrères le rencontrent pas mal. Joue pas le jeu, c'est compliqué parce que ça stigmatise un petit peu. Je pense qu'il y a des aspects culturels, il y a une incompréhension. On voit son enfant grandir, on veut qu'il mange bien, qu'il ait des bonnes joues, etc. On a des apports en protéines souvent qui sont trop importants et ça favorise, hein, c'est l'obésité à venir, hein, chez les tout petits. On a des enfants qui n'ont pas une diversification alimentaire, c'est-à-dire le fait de découvrir tout le panel des aliments qui est bien mené, et ça explique aussi les problèmes alimentaires, des comportements alimentaires qui sont préprogrammés, parce que les enfants vont avoir une appétence plus développée pour certains aliments, et d'autres ne seront pas introduits, donc on aura des difficultés à les introduire plus tard. Ce sont des enfants qui risquent d'avoir des produits sucrés aussi en grosse quantité, et on sait que ça, c'est ce que disait, je n'ai plus le prénom, mais le précédent auditeur, Michel, sur le sucre, oui, qu'on a en grande quantité, ça vient couvrir complètement tout le goût, donc on ne développe pas une palette gustative, donc on ne s'ouvre pas à une alimentation variée, donc ça, si vous voulez, ça prédestine à une alimentation assez monotone et souvent très riche, grasse, sucrée, salée, forte en goût, et voilà, forte en, effectivement, en produits sapides, hein, donc produits gras. Donc on rencontre ces enfants-là et les parents, et ce sont des cultures aussi. Donc c'est une éducation des parents à mettre en place, ce sont des explications, c'est un accompagnement. On est vraiment dans un accompagnement de longue durée, et avant d'éduquer les enfants, on éduque les parents, effectivement, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et on a besoin de prise en charge pluridisciplinaire, effectivement. On a besoin de voir au niveau social, au niveau économique, de voir peut-être des psychologues.
C'est l'idée du plan gouvernemental dont on va peut-être reparler si on aura encore un peu de temps. Vous souhaitiez réagir, docteur Le Cornet-Socol?
Oui, je pense que tout parent veut le bien de son enfant, mais après, on peut aussi avoir une culture différente, on peut aussi avoir des difficultés différentes, parce que manger bien, ça coûte cher. Et ça prend du temps. Donc quand vous avez peu de moyens, que vous devez travailler tôt le matin, tard le soir, que vous avez beaucoup de préoccupations, des difficultés familiales, sociales, parfois on n'arrive pas à comprendre effectivement ce message, ou parce que aussi c'est comme ça dans votre famille, et puis puisqu'il peut y avoir des prédispositions. Et juste un petit message, c'est que quand il y a une obésité qui apparaît avant l'âge de 6 ans, il y a quand même très souvent une grande susceptibilité génétique. Donc effectivement, ça nécessite des équipes spécialisées, ce qu'on appelle l'obésité commune, c'est-à-dire celle qu'on connaît le plus souvent, apparaît quand même un peu plus tard. Elle peut apparaître donc soit à l'école élémentaire, à la puberté ou même plus tard. Donc on ne naît pas avec un problème d'obésité. À un moment, ça apparaît dans la vie.
Je crois que sur le même thème, Jules a une question à nous poser. Jules qui nous appelle de Sète, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et merci de prendre mon appel.
Avec plaisir.
Oui, je suis vraiment exaspéré d'entendre sans arrêt faire le lien quasi absolu entre l'alimentation et le fait d'avoir un surpoids. Je pense que moi je suis, si vous voulez, problématique du côté de la thyroïde. Hein, donc de l'hypothyroïdie, et je sais, ayant travaillé ce problème, d'avoir eu connaissance de pas mal de pathologies, et ça les médecins n'en parlent jamais.
Pardon de vous contredire, Jules, mais je pense qu'on venait justement d'en parler avec le docteur Le Cornet-Socol, c'est qu'il y a aussi une hérédité. Alors là, on nous parle de problèmes de thyroïde. Je vous reprends tout de suite, Jules, à 7. Ce que dit Jules, c'est que on parle trop souvent de surpoids lié à l'alimentation, on ne parle pas assez des autres causes.
Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jules. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les études scientifiques, et la plupart des experts aujourd'hui disent bien que ce n'est pas que un problème d'alimentation. Il y a d'autres facteurs qui peuvent arriver dans la vie. Il peut y avoir des traumatismes aussi qui peuvent arriver. Il peut y avoir des médicaments. Il peut y avoir certaines maladies thyroïdiennes, effectivement. Une opération, un traumatisme important. Si vous avez eu un grave accident de voiture, que vous n'avez pas pu marcher pendant des mois. Donc en fait, on retrouve aussi souvent un facteur déclenchant. C'est pour ça que mettre tout sur l'alimentation, elle est là pour prévenir. prévenir et la qualité de l'alimentation est là pour empêcher d'arriver, mais une fois que la maladie elle est là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça c'est très important parce que la stigmatisation des personnes en situation d'obésité aujourd'hui, c'est un vrai scandale. On sait que plus d'un tiers des patients n'osent pas parler avec un médecin de leur poids parce qu'ils ont déjà subi de la grossophobie. Ça c'est vraiment, ça fait partie des choses scandaleuses. Donc merci beaucoup Jules de votre témoignage.
Jules, vous aviez un deuxième témoignage, une deuxième partie dans votre question ?
Non, pas du tout. C'était simplement, si vous voulez, à partir de mon cas, sachant qu'il y a beaucoup d'autres pathologies. Mon cas, par exemple, c'est que je coche toutes les cases d'une hypothyroïdie, alors que toutes les analyses sanguines me placent tout à fait dans la norme. Et ceci permet au médecin de dire « Ah ben, comme c'est écrit sur le papier, alors tout va très bien ».
Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir, Jules. Pas mal de questions également sur le plan gouvernemental. Je vais peut-être m'orienter vers vous, Séverine Berthéas. Yannis Noder, ministre démissionnaire de la Santé, avait envisagé à un moment un plan santé du gouvernement en France. Je crois qu'il est toujours dans les cartons pour cause de crise politique. Ce plan obésité en France, vous en attendez quoi ? Votre souffle long
oui,
en dit long.
Si vous voulez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il faut que les politiques elles soient, et c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, il faut que ce soit global, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on va mettre en place sur les recommandations mais aussi
sur les
environnements.
Quand vous dites plan global, pardon de vous couper, pour mieux combattre le surpoids, c'est qu'il faut étudier le plan éducatif, sanitaire, sportif, médicamenteux, tout doit être exploré en même temps.
Tout, et puis l'environnement dans lequel on évolue, avoir des environnements qui favorisent aussi un niveau d'activité physique suffisant, pouvoir se déplacer sans danger, favoriser les mobilités douces, ça va être un tout si vous voulez, mais favoriser aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cher de se faire à manger correctement, il faut qu'on ait des vraies politiques sur l'accès à une alimentation saine, donc on essaye d'apporter ça au sein des restaurations, des cantines scolaires, on a des produits de qualité en plus grande quantité, mais ça reste quand même compliqué de couvrir tous les besoins. Il faut vraiment des politiques complètes qui permettent justement aux personnes de pouvoir faire les bons choix, de se déplacer correctement, d'augmenter leur niveau d'activité physique et de manger sainement, effectivement.
Docteur Le Cornet-Saucol, je vous pose la même question. Un plan national qui se tournerait pour une lutte efficace contre les prises de poids et l'obésité, ça passerait par quoi ?
Oui, alors on espère que l'obésité va devenir grande cause nationale. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment des associations de patients, et on peut aussi les saluer aujourd'hui. Elles ont un rôle vraiment fondamental aussi dans la modification de la vision de cette maladie. Je pense aussi qu'il y a eu des choses qui se sont créées. Donc, par exemple, maintenant, en France, on a une quarantaine de centres spécialisés de l'obésité qui sont réservés aux personnes qui ont les obésités les plus complexes, où là, elles ont la possibilité de rentrer ce qu'on appelle dans des parcours multidisciplinaires. Donc, c'est-à-dire non seulement voir des médecins, mais des kinés, des éducateurs sportifs, des diététiciens et de rentrer dans des programmes de suivi.
Global, hein.
Exactement.
On réfléchit en global.
Exactement. Donc il y a eu beaucoup de recommandations de la Haute Autorité de Santé pour aider ce qu'on appelle la médecine de premier recours, c'est-à-dire les médecins généralistes, les kinés, les pharmaciens à accompagner les patients qui ont des questions. Là aussi, les endocrinologues, donc les médecins nutritionnistes spécialistes, se remettent aussi à essayer d'accompagner les patients, parce que c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est d'accompagner les personnes. Donc il y a la prévention, d'un côté, qui est fondamentale, et ça c'est de la volonté politique. Et de l'autre côté, il y a la prise en charge des patients et des personnes qui souffrent. Et là, ça s'organise quand même.
Nathalie nous appelle de Paris. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Moi j'avais un témoignage, j'étais en surpoids quand j'étais petite, dans les années 60, là maintenant j'ai 60 ans. Et à partir de 8 ans, on a décidé, mon médecin, le pédiatre, a dit qu'il y avait des nouveaux médicaments et on m'a donné tous les ancêtres du Mediator à partir de l'âge de 8 ans. Alors j'étais une enfant, j'étais pas formée, jusqu'à l'âge de 14 ans, on a même fini par me donner des extraits thyroïdiens. On n'a jamais compris pourquoi. À 15 ans, j'ai dit ça suffit, je veux plus rien prendre. Et résultat des courses, je me retrouve maintenant en obésité, j'ai été obèse toute ma vie. Et j'ai fait quelques tests, enfin pas quelques tests, j'étais suivie dans un hôpital public, dans un service de nutrition pour comprendre pourquoi j'étais obèse, parce que clairement ce que je mange ne justifie pas mon poids. Et la conclusion, ça a été qu'ils ont flingué mon métabolisme en me donnant ces médicaments à un âge où il fallait surtout pas donner ce genre de médicaments. Donc c'est juste un témoignage pour dire attention avec les médicaments miracles, parce que moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a fait prendre, et par pitié ne donnez pas ça à des enfants. Voilà.
Merci beaucoup de ce témoignage. Malheureusement, nos invités n'ont plus le temps de le commenter. Vous parliez de Mediator, en fait on va parler de coupe-faim. C'est encore en cours, juste en deux mots, Emmanuel Lecornet.
Non. Alors même ces nouveaux médicaments, c'est pas avant 12 ans de toute façon, et c'est que dans un certain cadre, après un bilan, avec un accompagnement, idéalement même en ayant vu au moins une fois un spécialiste. En tout cas, certainement pas chez les petits-enfants.
Merci beaucoup. Séverine Bertheas, diététicienne nutritionniste. Merci docteur Lecornet-Socol d'être venu répondre aux questions des auditeurs. Le téléphone sonne, c'est terminé. À suivre, l'heure philo de Patricia Martin, avec ce soir une rediffusion de l'émission du 20 septembre 2024 sur la juste taille des villes. Quelle est la taille idéale? Réflexion sur les villes, donc. Patricia va recevoir deux invités, le philosophe Thierry Pacaud et l'historien Patrick Boucheron.